100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour à tous. En 2050, 300 millions de personnes vont subir une inondation côtière au moins une fois par an. Conséquence directe du réchauffement climatique et de la montée du niveau de la mer, 60 cm en plus d'ici la fin du siècle, selon les experts. En Italie, Venise n'a pas eu à attendre 2050. Le 12 novembre dernier, la ville s'est retrouvée submergée avec jusqu'à 1,87 m d'eau dans ses rues et ces images saisissantes d'une place Saint-Marc transformée en piscine. Les marées d'automne, conjuguées au changement climatique et à une tempête, sont à l'origine de cette crue historique. Un drame qui a fait reparler de Moïse, c'est le nom français du projet MOSE comme module expérimental électromécanique, un projet de barrage gigantesque censé protéger Venise des inondations. Notre correspondant Olivier Bonnel a visité le chantier.
Nous sommes sur la passe du Lido, l'une des trois embouchures de la lagune de Venise, au nord-est de la ville, qui marque la frontière entre la cité des Doges et la mer Adriatique. Ce matin, c'est un ouvrage pas comme les autres, celui du barrage Mosè, qu'Alexandro Moreau, le directeur du chantier, nous fait visiter.
L'embouchure du Lido, comme on le voit, a été divisée en deux par des barrières artificielles. La profondeur est ici de 6 mètres et 21 vannes mobiles ont été installées.
Mosè est l'acronyme de module expérimental électromécanique. C'est aussi le nom de Moïse en italien qui traversa à sec la mer Rouge. Un gigantesque barrage modulable qui est censé s'activer en cas de forte marée et dont les premières ébauches sont nées dans les années 80. Au total, 78 digues mobiles ont été construites dans les trois embouchures qui donnent sur la lagune vénitienne. Un chantier titanesque qui a débuté en 2003. Pour prendre la mesure de cet ouvrage unique au monde, Alessandro nous fait descendre dans les entrailles de cette grande mécanique à moins 12,70 m sous le niveau de la mer. Nous arrivons dans une galerie où passent des kilomètres de tuyaux, d'air, d'eau, d'électricité. Les écluses sont au-dessus de nos têtes, reposant sur le fond marin. Devant un schéma, Alessandro nous décrit le fonctionnement de ce barrage.
Sur ce dessin, on peut voir les caissons en béton et les galeries. Au-dessus se trouvent les digues en acier qui, quand elles sont pleines, reposent à l'horizontale sur le fond de la mer. Si l'on veut soulever la digue, on injecte de l'air comprimé par les tubes que l'on voit derrière nous. L'extrémité de la digue s'allège, se soulève et vient bloquer la montée de l'eau.
Mais malgré la prouesse technique, le barrage Mosè ne fonctionne pas encore. Il manque par exemple des générateurs électriques en cas de court-circuit et les moyens de communication entre la salle de contrôle située sur la lagune et les trois embouchures. Et son inauguration a plusieurs fois été reportée en raison de la corruption qui a accompagné le chantier. Surfacturation, rétrocommission, au total 6 milliards d'euros ont été engloutis. Au café Rosso de la place Santa Margherita, Betty, la propriétaire, a dû fermer 4 jours pour réparer les dégâts de la marée. L'eau y est montée à 60 cm et quand on lui parle de Mosè, elle ne décolère pas.
Qu'ils commencent d'abord par bien nettoyer la ville et qu'ils laissent faire les Vénitiens et pas ceux qui restent assis derrière leur bureau et qui ne savent même pas comment on vit ici à Venise. Et que personne ne vienne me parler de Mosè hein, ou de je ne sais quoi, car je vais dire des gros mots et on est dans un lieu public.
Professeur émérite à l'Université d'architecture de Venise, Andreina Zitelli a fait partie du premier comité d'évaluation du Mosè dans les années 80.
J'ai piloté l'expertise du projet Mosè pour le ministère de l'Environnement à l'époque et l'avis que nous avons donné était négatif. Un avis qui a été ignoré. Nous avions prévu des solutions alternatives pour contenir la montée des eaux, mais les intérêts privés ont primé. Les trois embouchures de la lagune ont été creusées trop profondément, tout comme les canaux. La lagune de Venise n'a pas besoin d'une telle profondeur.
En creusant la lagune, le chantier de Mosè est accusé d'avoir fragilisé encore plus Venise, laissant ainsi s'engouffrer les eaux de l'Adriatique dans les canaux de la Sérénissime. Le gouvernement italien, pressé par l'UNESCO, a imposé que l'ouvrage soit achevé avant la fin 2021. Mais même fini, ces digues mobiles ne garantissent pas une protection contre la montée des eaux. Les parties en acier montrent déjà des signes de corrosion et jamais les digues amovibles n'ont été testées quand le vent souffle à 120 km/h, comme le 12 novembre dernier. Situation surréaliste d'un projet qui doit aller à son terme et dont l'utilité sera peut-être nulle. Sur le chantier, Mirko Angiolin, l'adjoint d'Alessandro Moreau, comprend l'exaspération des Vénitiens, mais le Mosè, pour lui, doit être terminé.
Les Vénitiens sont déçus parce que les travaux du Mosè, une fois achevés, et j'ai confiance qu'ils le seront bientôt, auront mis plus de temps que pour construire les pyramides d'Égypte qui se sont faites en 8 ans. Mais je suis optimiste et je pense que tout sera prêt pour 2021, que le barrage pourra se lever quand on en aura besoin.
Mosè risque fort d'être l'histoire d'un grand gâchis, celui d'un ouvrage obsolète avant même d'être achevé. L'urgence est désormais de trouver d'autres moyens pour sauver Venise et sa lagune de la montée inéluctable des eaux.
Parmi les pays européens les plus menacés par la montée des eaux, il y a la Belgique, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ce pays, dont un quart de la surface se trouve sous le niveau de la mer, a depuis longtemps développé une expertise dans la gestion des inondations et de la montée du niveau de l'océan. L'Institut Deltares, un institut de recherche indépendant, est l'un des acteurs qui exporte le résultat de ses recherches dans le monde entier, du Bangladesh à la Guinée-Conakry. Frédéric Lebel est allé rendre visite à l'institut situé à Delft, dans le sud du pays, où l'on teste grandeur nature des phénomènes extrêmes.
On est en train de recréer les conditions d'une grosse tempête ici. Vous voyez au bout du canal, il y a ce grand mur d'acier de 10 mètres de haut qui avance et qui recule. Et c'est comme ça qu'il crée des vagues. Là, on voit qu'il y a des grosses vagues qui attaquent la structure. En moyenne, elles sont de 1,1 m. C'est une mesure très technique parce qu'il y a des vagues plus hautes et d'autres plus faibles, juste comme dans la nature.
L'ingénieur Marc Klein-Brettler n'est pas peu fier de nous présenter le canal Delta, la plus grande piscine à vagues du monde. Ici, on teste des digues, des installations offshore, tout ce qui peut être mis en danger par la montée du niveau de la mer et les phénomènes climatiques extrêmes. Un sujet qui intéresse de nombreuses villes côtières et leurs motivations sont à la fois humaines et financières.
Notre premier client, par exemple, avait le projet de rénover une digue assez ancienne pour 25 millions d'euros. Mais on lui a dit, peut-être que vous devriez d'abord la tester ici. Et c'est ce qu'on a fait, ça lui a coûté 200 000 euros. Alors bien sûr, c'est cher, mais ça lui a permis d'économiser bien plus.
L'Institut Deltares concentre sur 15 hectares un nombre incroyable de laboratoires grandeur nature. À quelques mètres, des vagues artificielles qui ne débordent jamais. Une serre est en construction. Elle sera terminée au printemps. L'ingénieur Philippe Quairaud veut y faire pousser des palétuviers pour tester cette fois la résistance des mangroves aux tempêtes et inondations.
Il faut pouvoir recréer la structure d'ancrage des racines des arbres sur un substrat, donc un sol, bien déterminé et représentatif de ce que nous avons, par exemple, sur les zones côtières africaines ou asiatiques. Donc il faut à la fois recréer le sol, mais aussi les plantes. Et on a fait des tests avec des peupliers, par exemple, ou avec des sols. Mais ici, si on veut avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de la mangrove, il faut le faire avec des palétuviers.
Pour ce docteur en sciences de l'environnement, la Guinée-Conakry est un premier champ d'application. Il a dernièrement pu visiter l'île de Kabak. Un village, une mosquée ont été engloutis en raison de la montée du niveau de la mer. Les digues en dur n'y ont rien fait. Il faut penser autrement.
Les grosses structures qui sont en béton ou en dur ont besoin d'entretien et finissent par casser. La nature s'entretient toute seule, se régénère et est plus meuble, plus flexible au choc. Donc c'est pour ça qu'on est en train de développer des dunes qu'on appelle sandwich, qui comprennent une partie dure et une partie face à la mer qui est basée sur la nature, faite de telle sorte qu'elle puisse absorber l'énergie des vagues, mais aussi se revitaliser.
Enfin, un peu plus loin, dans un immense hangar, ce sont des écluses qui ont été construites à l'échelle réelle. Des embarcations de plusieurs mètres y évoluent dans un scénario où l'eau de la mer viendrait déborder et se mélanger à l'eau douce.
Ce mélange eau saline et eau fraîche au niveau des écluses peut déstabiliser les bateaux. La flottabilité des bateaux n'est pas la même si on est dans la mer ou si on est en rivière. Si un bateau chavire au niveau d'une écluse, ça a d'énormes conséquences pour toutes les infrastructures, pour la cargaison, mais aussi pour la réputation, notamment des Pays-Bas, dans le transport maritime et fluvial.
Les 800 chercheurs de Deltares produisent une expertise précieuse pour les Pays-Bas, mais aussi pour l'Asie ou l'Afrique. Aujourd'hui, les inondations représentent la moitié des catastrophes naturelles dans le monde, causant la mort chaque année de 7000 personnes en moyenne. Gérer et prévenir les inondations se fait aussi beaucoup derrière un bureau, devant un ordinateur. Un secteur où l'Institut privilégie beaucoup les programmes en libre accès, l'open data, comme on dit. La gestion de la communication est une des clés pour sauver des vies. Et là encore, les Pays-Bas ont une longueur d'avance. Ferdinand Diermans, expert dans le management de risques inondations.
Ici, on a un site d'information sur lequel n'importe quel citoyen peut se connecter avec son code postal. Et il peut savoir, en cas d'inondation, combien de mètres d'eau vont envahir sa maison, 1 mètre ou 3 mètres. Et ensuite, s'il y a une catastrophe, quelle attitude adopter ? Faut-il mieux évacuer ou faut-il plutôt se retrancher avec de la nourriture dans les étages supérieurs ? Parce que si tout le monde se précipite en même temps sur l'autoroute, les dégâts peuvent être bien pires.
Une communication qui repose aussi largement sur les réseaux sociaux, les tweets émis par les autorités, mais aussi par les particuliers, seront ensuite une précieuse base de données pour anticiper les prochaines crises.
Direction la Grande-Bretagne à présent. Le sud du Yorkshire, dans le nord du pays, a été victime de graves inondations au début du mois. Une femme est morte, emportée par le courant. Dans cette région, particulièrement à risque, un projet de défense naturelle contre la montée des eaux est expérimenté depuis le début de l'année. Il suit l'exemple innovant d'un autre chantier qui, lui, a été réalisé à l'ouest de l'Angleterre. Marie Billon s'est rendue sur place pour nous.
Il dépose de grosses branches au tournant d'un cours d'eau. Elles sont savamment installées pour que le courant, quand il est normal, ne soit en rien ralenti. Mais si les eaux montent, ces branches feront l'effet d'un barrage naturel et redirigeront l'excès vers le sol. C'est ce qu'on appelle un leaky dam, un barrage percé. Ce genre d'initiative mêlant nature et travail d'homme est au cœur du projet de gestion naturelle des cours d'eau sur un ensemble de sites à l'ouest du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Ces vallées avaient subi de graves inondations le 26 décembre 2015. Les travaux visent à protéger 3000 habitations et locaux commerciaux. Les autorités locales se sont donc associé à l'organisme de conservation National Trust et à d'autres structures régionales pour ce projet innovant. Outre les 650 barrages percés, 151 hectares de forêt doivent être plantés près d'un réservoir d'eau dans la vallée de Wessenden. Pour stabiliser les cours d'eau, 3000 mètres de fines tranchées sont creusées et de nouveaux pâturages vont être créés pour que moutons et vaches puissent paître et entretenir naturellement la flore. Le projet est coûteux, l'équivalent de 3 millions d'euros, mais le but est d'employer des moyens de défense naturelle qui, à long terme, reviendront moins cher à l'entretien. L'initiative a aussi pour but de restaurer la faune et la flore des environs, permettant la création de nouveaux habitats naturels pour plusieurs espèces d'oiseaux, notamment certaines chouettes. En 2015, les inondations avaient coûté près de 200 millions d'euros à l'économie régionale, selon l'université de Leeds, d'où l'idée pour les autorités locales d'investir dans ce projet de défense naturelle.
En Russie, la guerre de l'information franchit un nouveau palier. La Douma, la chambre basse du Parlement russe, vient d'adopter une loi qui permettra de qualifier des médias étrangers, mais aussi des ONG, des associations ou des particuliers d'agents de l'étranger, dès lors qu'ils bénéficient d'un financement international. Les explications de Daniel Valo.
Les autorités assurent que la loi ne concernera qu'un petit nombre d'individus et qu'elle sera appliquée avec beaucoup de précautions. Mais dans la presse russe, on note le caractère très flou des amendements et les ONG de défense des droits de l'homme se disent très inquiètes. À leurs yeux, le texte pourrait concerner non seulement les journalistes indépendants et les blogueurs, mais aussi tout internaute ayant bénéficié de financements de l'étranger. C'est un tour de vis supplémentaire contre la liberté d'expression, estime le militant des droits de l'homme, Liev Ponomarev.
Bien sûr, c'est complètement absurde. Il est évident que cette loi ne pourra pas s'appliquer à chaque personne. Ils vont devoir choisir parmi les gens qui s'opposent au régime, qui ont des contacts avec des médias occidentaux et qui reçoivent de l'argent depuis l'étranger. En réalité, c'est comme s'ils mettaient en place un mur de Berlin de l'information, un mur qui serait construit entre l'Occident et la population russe.
Deux critères seront retenus, la nature politique des informations partagées sur Internet et l'existence ou non de financement reçu de l'étranger. Ensuite, la personne classée agent de l'étranger devra se plier à des contrôles de l'administration et devra afficher ce statut d'agent de l'étranger sur toutes ses publications. Et on a vu récemment à quel point ce statut pouvait être contraignant. L'ONG Mémorial, très connue pour son travail sur les archives du KGB, a récemment été condamnée à de lourdes amendes pour ne pas avoir affiché clairement sur Internet qu'elle était classée agent de l'étranger. Dorénavant, ce sont donc des individus qui pourraient être visés par les autorités. Ce que craignent les détracteurs de cette loi, eh bien, c'est que s'instaure sur Internet en Russie une forme de censure, puis d'auto-censure. Les autorités russes étant accusées de vouloir restreindre la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et de manière générale sur Internet.
La Géorgie était de nouveau dans la rue hier. Des milliers d'opposants au parti au pouvoir rassemblés devant le Parlement dans la capitale, une semaine après avoir été dispersés par la force par la police anti-émeute. En cause, le refus du gouvernement de mener une réforme du système électoral promise pour mettre fin à une précédente vague de contestation. Le mécontentement vise en particulier un homme, l'oligarque Bidzina Ivanichvili. L'ancien Premier ministre est aujourd'hui à la tête du parti au pouvoir, le rêve géorgien. C'est lui, le véritable homme fort du pays et la cible des manifestants. Son portrait par Anastasia Becchio.
Le milliardaire de 63 ans n'aura été Premier ministre que durant un an et 25 jours, entre octobre 2012 et novembre 2013. Mais à la tête du parti, le rêve géorgien, il est celui sur lequel toute la vie politique repose, comme le raconte Tornike Charachenidze de l'Institut géorgien des affaires publiques.
Le ministre de l'Intérieur, par exemple, est son ancien garde du corps. Le patron de la garde d'État est aussi l'un de ses anciens gardes du corps. Le ministre de la Défense est son ancien secrétaire. Et on pourrait continuer la liste. Tous les postes clés sont occupés, soit par ses anciens collaborateurs, soit par ses anciens gardes du corps. Et toutes les décisions importantes passent par Bidzina Ivanichvili.
À Tbilissi, Bidzina Ivanichvili vit dans une citadelle futuriste d'acier et de verre conçue par un architecte japonais avec héliport et sphère abritant une salle de banquet dominant la capitale géorgienne. Il possède aussi un zoo privé près de son village natal dans les montagnes où il a beaucoup investi. Avant d'embrasser la politique, il y a moins de 10 ans, l'homme d'affaires n'était connu que d'un cercle très restreint de personnes, comme le rappelle le politologue Guy Anodia de l'École internationale des études caucasiennes à Tbilissi.
Avant qu'il ne se lance en politique, il était même délicat de trouver une photo de lui. Il y avait très peu de gens qu'il connaissait ou qui avaient eu des contacts avec lui. Par exemple, après avoir remporté les élections, il a organisé une première rencontre avec les hommes d'affaires géorgiens. Et il a alors dit « Je ne connais personne, mais nous allons faire connaissance ».
Homme le plus riche de Géorgie, Bidzina Ivanichvili est soupçonné de mélanger politique et affaires. Il a vécu un temps en France au début des années 2000. Il a même acquis la nationalité française à laquelle il a dû par la suite renoncer. Il a bâti sa fortune en Russie dans les années 90. Le milliardaire affirme avoir vendu ses actifs russes depuis longtemps, mais ses opposants continuent régulièrement de l'accuser d'entretenir des liens avec le Kremlin, comme le rappelle Guy Anodia.
Cette question reste un mystère. Beaucoup dans l'opposition le considèrent tout simplement comme l'homme de Moscou. Je pense qu'il est effectivement beaucoup plus enclin à œuvrer pour des relations apaisées avec la Russie que ses opposants. Mais quant à savoir ce qu'il pense vraiment de la Russie et quelles sont ses véritables relations avec la Russie, cela demeure une énigme.
Les relations entre les deux pays se sont tendues en juin après la visite d'un député russe au Parlement géorgien qui avait provoqué des manifestations massives. Depuis cet été, les vols directs entre Moscou et Tbilissi sont suspendus.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Pour nous retrouver, nous écouter partout, rendez-vous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast. À demain.